Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en août 2009 et c'est l'épisode numéro 16. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja, je suis votre hôte et vous êtes sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de toute l'actualité du net, des gadgets, des téléphones, des ordinateurs, des systèmes d'exploitation et tout ça en des termes qui sont accessibles à tous, évidemment. Aujourd'hui, je suis avec mon camarade Jeff, puisque Yann n'est pas avec nous, il est pris dans ses histoires de déménagement. Comme vous le savez peut-être, il part au Canada et il n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui. Et donc, comme je le disais, Jeff est tout de même avec moi pour cet épisode. Comment vas-tu, Jeff ?
Ça va très bien, Patrick. Bonjour à tous depuis Palo Alto, puisque la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était dans une autre émission et c'était depuis Los Angeles.
Ouais.
Donc, il fait très beau ici, on a dépassé les 100 degrés hier, 105 on a eu, donc ça fait un peu plus de 40, donc c'est bien chaud pour le rendez-vous tech, mais tout va bien, on a quelques news, on a une petite émission, et on souhaite bonne chance à Yann, qui je suis sûr nous écoutera, pour son déménagement tout et pour fait. Ses cartons.
Moi d'ailleurs, tu me fais rire avec tes 40 degrés à Palo Alto, parce que je, comme certains le savent peut-être si vous me suivez sur Twitter, après notre émission de Los Angeles où il y avait la BlizzCon dont on reparlera un petit peu plus tard dans l'émission, je suis allé à San Francisco. Et après San Francisco, je suis venu voir mes amis, les Spagnolo, à Phoenix. Phoenix, en Arizona, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie des États-Unis, c'est le milieu du désert. Donc, il fait à peu près 43, 44 degrés depuis que je suis là.
Oui, Phoenix, il fait typiquement très, très chaud et très sec. C'est pour ça que c'est un endroit où beaucoup de gens âgés vont déménager. C'est un peu comme Palm Springs et la Floride, parce que c'est un climat qui est très intéressant.
Voilà. Et écoute, bah d'ailleurs, attends, je vais voir, je vais essayer de débrancher mon ordinateur là, mon petit Dell du secteur, et je vais aller dans le jardin pour voir si je peux pas faire le podcast étendu sur la chaise longue. On va voir. Si jamais ça coupe, c'est, vous inquiétez pas.
Voilà, il veut jouer au cake. Voilà. Voilà. Il peut pas faire ça depuis son appartement à Paris, donc il veut
Hop,
jouer au cake.
Voilà. Oulala, fou. Il y a un soleil là. C'est incroyable. Oui, d'ailleurs, on n'est pas en live hein, ce coup-ci parce que c'était un petit peu compliqué à mettre en place. Hein. J'allais pas faire ça en live depuis chez les Spagnolo et les embêter à tout mettre en place. Donc, on se contente d'une émission entre nous qui sera disponible dans le podcast que vous êtes en train d'écouter. Ouf, il fait. Ce que je vais faire, c'est que full interactif. Enfin presque, je vais prendre une photo que je posterai avec l'image, ça sera l'image de l'émission, tiens, de l'article sur le blog. Comme ça les gens pourront voir d'où j'étais quand j'ai fait cette émission.
Alors Randy et Scott ont fait un jour une émission, donc une instance depuis le jacuzzi, on pourrait faire ça depuis la piscine.
Tu parles de l'instance, oui.
Instance, ouais. Mais bon, oui, bah, j'aurais peur de mettre mon MacBook à côté de la piscine parce qu'on sait jamais, je voudrais avoir de
oui,
la
c'est, un petit peu dangereux quand même, c'est vrai. Et d'ailleurs, bah, tu parles de MacBook, ça nous offre une petite intro pour la série incroyable de News Apple qu'on va avoir dans cette émission et je te propose qu'on se lance immédiatement.
Je te suis.
Alors, première news, c'est la saga AT&T, Apple, Google qui continue. Si vous n'êtes pas au courant, il y a eu un petit souci dans le processus d'approbation des applications pour l'iPhone, pour l'application de Google Voice. On en a déjà parlé plusieurs fois, donc si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous pouvez retourner écouter les émissions précédentes. Mais Google Voice a été refusé et ça a éveillé les soupçons de la FCC, la Federal Communications Commission américaine, donc qui est chargée de réguler le marché des communications. Et ils ont demandé à Apple, à AT&T et à Google de leur rendre des comptes. Et il y a eu un développement la semaine dernière qui était un petit peu ahurissant.
Amusant, je dirais.
Ouais.
C'est pas nous, c'est pas nous. C'est pas nous, pas nous.
Alors, tout le monde s'est renvoyé la balle un petit peu comme des enfants de 6 ans. Bon, AT&T, il faut être honnête, ils ont été plutôt, plutôt sérieux. Ils ont dit, nous, ce qui se passe avec l'iPhone, c'est que on a demandé à Apple de ne pas autoriser d'applications qui fassent de la voix sur IP. Des choses comme Skype ou comme ce genre d'applications qui vous permettent de parler directement par Internet ne sont pas accessibles sur le réseau de AT&T, donc sur le réseau 3G. C'est disponible en Wi-Fi, Skype a déjà été accepté, et il marche très très bien d'ailleurs, je m'en suis servi un petit peu ces derniers jours.
Ouais, c'est super.
Et donc AT&T a dit, on a demandé ça à Apple, mais c'est la seule chose, pour le reste, on n'a rien à voir avec l'approbation des applications sur l'App Store. Apple, par contre, a fait un truc hallucinant. D'une part, ils ont dit, la première chose qu'ils ont dit, c'est, non, on n'a pas refusé l'application de Google Voice, on est encore en train de l'étudier. Ce qui est... Enfin, on ne sait même pas d'où ça sort parce qu'elle a clairement été refusée. Et enfin, il a été le refus de cette application est un fait avéré. Et d'ailleurs, je suis certain que les gens de Google ont chez eux un email disant voilà, désolé, votre application a été rejetée. Je ne comprends pas déjà comment ils peuvent dire ça. Première chose. Deuxième chose, ils ont fait un truc. Bon, mais encore bon. Ils disent ça, ils essayent de se rattraper aux branches, ils sont là, non, pas vraiment, on a accepté Skype, donc ok, puisqu'on a accepté Skype, on devrait accepter Google Voice, mais Google Voice, en fait, on l'a pas vraiment refusé, donc bon, ils essayent de se rattraper aux branches. Mais le plus hallucinant, c'est qu'ils ont, dans le même communiqué, annoncé que le problème avec Google Voice, c'était qu'il remplaçait des fonctions essentielles de l'iPhone et que ça pouvait instiger de la confusion chez les utilisateurs. Et les fonctions dont ils disent que Google Voice les remplace, c'est des choses comme la liste de contacts, le répondeur de l'iPhone et ce genre de choses. Alors que c'est totalement faux. Google Voice est complètement intégré à l'application Google Voice et il ne remplace pas les fonctions en dehors de cette application Google Voice. Si on la lance, on a accès à ces fonctions, mais si elle n'est pas lancée, l'iPhone reste complètement comme il a été designé. Et c'est vraiment étrange ce type de défense, entre guillemets, parce que c'est très facilement vérifiable. Il y a plein de gens qui ont téléchargé l'application Google Voice pendant les quelques heures où elle était disponible et elles ont été, enfin, ils peuvent très simplement montrer que ces affirmations sont fausses. Moi, oui, ça me surprend.
Bah, en fait, c'est l'équipe de PR de relations publiques d'Apple qui essaie de trouver une solution pour ne pas perdre la face tout en leur donnant la possibilité de revenir en arrière, etc. Et ils ont sorti cette espèce de, excuse-moi le mot, bullshit complet, où tu lis ça et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Plutôt que de dire, bon, écoutez les gars, désolé, effectivement, on a peut-être poussé un peu le bouchon, pardon, on va revenir en arrière et puis voilà.
Mais c'est ça qui est surprenant, parce qu'un message justement de relations presse peut être rédigé pour sauver les meubles, mais de manière un minimum cohérente. Là, c'est vraiment un truc qui a, enfin, à mon sens, le travail des relations presse n'a pas été super bien fait, justement, parce que ces choses-là sont très facilement vérifiables. Donc, pourtant, Apple a un service de relations presse très efficace, donc c'est surprenant, quoi.
C'est bizarre, c'est plus que bizarre.
L'une des théories que je donnais sur Buzz Out Loud il y a quelques jours, c'était que ils ont essayé de perturber les gens de la FCC, qui sont des vieux monsieur qui n'y comprennent pas grand chose, en disant mais ça remplace ci, ça remplace ça, donc cherchez pas, c'est pas bien. Et peut-être que tu sais, c'est les gens du gouvernement, les trucs comme ça, ils se sont dit.
Justement, parce que là, le nouveau chef de la FCC, c'est Julius Gachowski, qui est un avocat de formation, mais c'est aussi un technologiste, un entrepreneur, c'est un VC. Donc c'est c'est un copain à nous, c'est un copain de l'industrie
de la Silicon Valley.
C'est un copain de la Silicon Valley, même s'il a passé beaucoup de temps à Washington, et c'est là où en fait son fonds opérait. Il avait un espèce d'incubateur qu'il avait monté il y a un an et demi, et ce que je peux te dire, c'est que c'est pas la moitié d'un imbécile, et Bon, évidemment, maintenant, les petits messages privés où tu dis hey Julius, qu'est-ce que t'en penses? C'est plus possible, c'est dommage.
Bien
parce
sûr.
que je serais intéressé de savoir ce qui se dit en regardant ce machin en disant bon, les gars, ils nous prennent pour des cons. Qu'est-ce qu'on fait?
Ouais.
Et quand on voit en fait l'impact de cet incident, puisque faut pas oublier quand même que Eric Schmidt a quitté le board d'Apple 2-3 jours après l'incident.
Tout
Donc
à fait.
C'est quelque chose qui a pris une proportion, parce que bon, une investigation de la FCC, c'est quand même pas rien, faut pas exagérer. Donc le fait qu'il réponde de façon aussi, je dirais, cavalière est assez surprenant.
Ouais. D'ailleurs, la réaction a priori ne va pas se faire attendre. Enfin, la réaction, la fin de l'histoire ou l'évolution de l'histoire, il est probable que Apple annonce d'ici quelques semaines. Bon, bah voilà, maintenant on a fini notre processus de review de l'application et elle peut sortir comme prévu. Et bon, parce que c'est une situation qui est un petit peu intenable et leur réaction à la situation prouve que les choses ne peuvent pas continuer de la sorte. Mais bon, là encore, on verra ce que ça donne. Par contre, une réaction... Ah oui, pardon. Avant de passer à l'histoire suivante qui est aussi relative à l'App Store, je voulais parler de Google et de la manière dont eux ont répondu à la FCC, qui était quasiment aussi comique. C'est-à-dire que le document qu'ils ont envoyé à la FCC semblait être relativement complet, sauf que ils en ont, pour la version publique, ils en ont censuré la moitié. C'est-à-dire que toutes les parties où ils expliquaient pourquoi Apple a refusé tel truc ou comment ça s'est passé, quelles étaient les relations, étaient censurées. Et enfin, ça aussi, c'est un petit peu... Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils ont une arme secrète dans Google Voice dont personne n'aurait entendu parler, alors que les gens l'ont déjà downloadé? Enfin, c'est très étrange, cette réaction-là. Ça t'inspire pas tellement?
Non, ça fait partie de la déposition des grandes boîtes, type Google, Microsoft, AT&T, etc., où ils vont répondre sans répondre. C'est pour ça qu'ils ont des armées d'avocats.
Ouais.
Ils vont répondre aux questions sans répondre aux questions, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Mais c'était pas la réponse, mais c'est ma réponse.
Voilà.
C'était pas la question, mais c'était ma réponse.
Oui, cette phrase célèbre. C'était Mitterrand, non? C'était Al Kabbach qui lui dit, enfin dans une vieille interview, Al Kabbach lui dit, il lui pose une question, Mitterrand répond à côté, Al Kabbach lui dit mais Monsieur le Président, ce n'était pas ma question, Mitterrand lui répond en lui clouant le bec, mais c'est ma réponse. Donc c'était tout à fait légendaire. Et là, Google et Apple font un petit peu la même chose. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est Nicole qui est en train de faire la cuisine à côté. Et les chiens qui sont très intéressés par ce qui se passe devant la cuisinière. Donc, je suis désolé, c'est un rendez-vous tech un petit peu roots aujourd'hui. Donc, autre réaction qui a été intéressante, c'est que cette application Spotify, dont on vous avait déjà parlé, Spotify, c'est le service de streaming de musique qui a beaucoup de succès sur le PC et qui était en développement pour l'iPhone, tout le monde se disait est-ce qu'elle va être acceptée, est-ce qu'elle va pas être acceptée, c'est un petit peu un concurrent direct de l'iTunes Store, donc bon, Apple risque de mettre un petit peu une barrière à ce niveau. Et ben finalement, ils l'ont accepté directement. Ils ont dit OK, il y a quelques jours, ils ont dit Spotify a été accepté, il sera disponible, l'appli sera disponible sur l'App Store dans pas très longtemps. Ça c'est une super nouvelle parce que le streaming c'est un système d'abonnement en fait. C'est un système d'abonnement qui vous permet d'écouter autant de musique que vous voulez pour je crois c'est 10 euros ou 10 dollars par mois quoi. Ou alors gratuitement avec de la pub. Ouais. Bon, ça c'était. Moi j'ai été surpris qu'ils l'aient accepté finalement. Je me suis dit ils vont tenir envers et contre tout pour protéger l'iTunes Store, mais finalement ils ont dit OK.
Ouais, ils ont laissé passer Pandora, qui est quand même un petit peu différent, et Pandora est aujourd'hui une des trois applications les plus populaires sur l'iPhone. Je pense que c'était, surtout dans le contexte actuel, ne pas approuver Spotify, ça aurait vraiment poussé le bouchon, je pense.
Ouais, ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Enfin,
à mon avis, ils ont dû se poser la question, mais bon.
Oui, c'est sûr.
Il a été cessé sur Google Voice, une autre sur Spotify, avec des gens qui commencent
beaucoup
à dire, tu vois, En fait, Apple, c'est Satan, alors qu'avant, c'était Microsoft. C'est assez intéressant puisque j'ai eu cette discussion avec un groupe de...
Excuse-moi une seconde, il y a le chien qui m'a bavé dessus. Je vais aller. Jackson! Excuse-moi, vas-y, continue, je me
Ok.
déplace. Vas-y.
Donc, j'étais avec un groupe. Moi, j'ai l'oiseau, toi, c'est les chiens.
Ouais, c'est ça.
J'étais avec un groupe de gens chez Microsoft, donc tous les patrons d'activités Search, Live, machin, etc. Et on parlait justement de la perception de Microsoft dans le marché. Et Microsoft, clairement, fin des années 90, c'était le Monopoly, c'était Satan, c'était tout ça, c'était donc la
Le grand
grosse.
méchant de la...
Le grand méchant loup avec la preuve antitrust derrière eux. Et aujourd'hui, en fait, tu commences à entendre, oui, mais c'est Apple, ils contrôlent tout, tu comprends, tout ça, ils dictent, ils ont la plateforme hard, ils ont la plateforme soft, ils ont la plateforme de commerce, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est assez intéressant parce que Apple était, il y a encore pas si longtemps, le petit ange qui était, en gros,
Qui se
le
battait
sauveur
contre Goliath, quoi.
qui se battait contre Goliath. Et donc, c'est assez intéressant ce changement de position. Et c'est vrai que des situations comme Google Voice ou Spotify, tu te poses la question, quoi.
Bah, c'est effectivement, on n'est pas encore une situation où tout est complètement renversé, où Apple est considéré comme un empire un petit peu sombre, mais il y a des signes effectivement de ce retournement, et Apple a intérêt à faire un petit peu attention parce que le public peut très vite donner une image assez négative d'Apple. Là, une petite partie des technophiles est exaspérée par le comportement d'Apple. Moi, j'avoue que je suis plutôt un défenseur d'Apple encore aujourd'hui à ce niveau-là, mais une partie des technophiles est exaspérée et ça peut se propager très vite, quoi. D'ailleurs, ils ont une raison d'être énervés chez Apple dans une situation là encore un petit peu retournée parce que vous connaissez tu connais ce système de réalité augmentée dont je crois qu'on en avait déjà parlé, hein. Pour
Ouais.
ceux qui connaissent pas, c'est un système. La réalité augmentée, en fait, c'est sur une image vidéo classique, fait une surimposition de texte synthétique. Donc, quand je dis texte synthétique, c'est simplement des panneaux de texte d'ordinateur, quoi, enfin d'images de synthèse, comme on a genre les affichages tête haute dans un avion de chasse. On va avoir le petit cercle, ou dans le Terminator, le petit cercle qui s'affiche sur la tête du type et qu'on regarde effectivement avec nos propres yeux et qui va dire c'est telle personne et il a tel âge, telle taille, etc. Des détails sur lui. C'est la réalité augmentée et on en avait déjà parlé. Ça va arriver sur iPhone. Il y a des applications expérimentales qui le font déjà depuis quelque temps, mais Apple avait demandé à tous les développeurs d'attendre la sortie du firmware du logiciel 3.1 de l'iPhone. C'est vraiment le LRDV spécial iPhone, hein, aujourd'hui.
C'est Apple.
Spécial Apple. Et ils ont demandé aux développeurs d'attendre la version 3.1 pour sortir leurs applications de réalité augmentée. Et il y a deux petits malins qui l'ont fait sans attendre et qui ont un petit peu gâché la fête pour tout le monde. C'est Metro Paris, qui est une application super bien faite où quand on est dans le métro, eh ben on lève son iPhone et on regarde autour de soi, ça nous indique à travers la caméra de l'iPhone exactement où sont les stations qu'on a sélectionnées et ça indique aussi ce qu'il appelle des points d'intérêt comme des cafés, des restaurants, etc. Donc on peut les retrouver très très facilement. Et il y a l'application Yelp qui est une application partenaire d'un site très très connu aux États-Unis, qui est un site de commentaires sur les restaurants, en fait, c'est ça?
En fait, c'est devenu les pages, c'est l'équivalent des pages jaunes, si tu veux. Simplement, ça a été développé par les utilisateurs. Donc, tu vas avoir la possibilité de rajouter un restaurant, un plombier, etc. Effectivement, tu vas pouvoir rentrer des commentaires, faire une revue, laisser une note. Et donc, aujourd'hui, si tu veux trouver un super resto chinois à Palo Alto, tu vas te loguer, tu vas faire Chinese Restaurants in Palo Alto et tu vas voir 25 restaurants chinois et tu vas voir les 3 ou 4 préférés de la communauté. Et donc, il y a un pouvoir autour de Yelp qui est maintenant énorme parce qu'ils ont une communauté de dizaines de millions d'utilisateurs.
Et d'ailleurs, il y avait eu un petit scandale à propos de Yelp il y a quelques temps, selon lequel les gens de Yelp n'étaient pas hyper honnêtes et demandaient aux gens, aux tenanciers des restaurants, de l'argent contre des commentaires positifs ou pire, déjà que ça c'est pas super, ils demandaient de l'argent ou alors ils faisaient remonter les commentaires négatifs. Mais bon, c'était un incident visiblement qui a été maîtrisé, mais c'est vrai que ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Mais c'est totalement une autre histoire. Là, on parlait de la réalité augmentée. Et donc, Yelp a mis une sorte d'easter egg, de petit secret dans la dernière version de son application. Quand on secoue l'appareil, l'iPhone 3 fois, l'application de réalité augmentée apparaît. Et évidemment, quelqu'un a découvert ce truc et l'a tweeté ou l'a envoyé sur le web et tout le monde est au courant. Donc, Apple fait un peu la gueule parce qu'ils avaient demandé très gentiment aux développeurs d'attendre la 3.1 qui devrait sortir début septembre, hein, donc c'est plus dans trop longtemps. Mais les développeurs, certains n'ont pas écouté les demandes, donc forcément Apple n'est pas content, ce qui peut se comprendre. Mais ceci dit, si vous habitez à Paris et que vous avez Métro Paris, allez voir dans l'application, dans la partie localisée, vous pourrez essayer vous-même la réalité augmentée et ça déménage. Autre news, là je me tourne un petit peu vers Jeff pour qu'il nous en parle, c'est la sortie de la nouvelle version de OS X, le système d'exploitation des Mac. OS X Snow Leopard est sorti, c'est la version 10.
Le Léopard de neige.
Voilà, 10.6 je crois. Ouais. Alors, qu'en penses-tu ? Tu l'as installé, n'est-ce pas ?
Donc, je suis allé plein d'émotions à l'Apple Store vendredi, le jour de la sortie. Comme à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, je vais le jour de la sortie pour acheter. J'ai retrouvé 3 de mes copains là-bas. On a fait la queue, on a récupéré notre Snow Leopard. J'ai attendu de voir ce que les autres avaient comme expérience. C'est-à-dire, j'ai pas été le premier à me lancer parce que, en fait, j'étais au bureau et j'avais mon MacBook principal et donc je voulais pas le briquer. Donc,
ouais, il vaut toujours mieux attendre un petit peu avant de faire son ordi principal, de le mettre à jour, vérifier que tout se passe bien chez les autres, quoi.
Et donc, comme de toute façon, mes copains, par définition, vivent leur vie sur Twitter. clairement, quelques heures, on a commencé à avoir les petits problèmes, petits soucis, mais grosso modo, ça se passait bien. Je l'ai installé sur le MacBook de ma femme pour vérifier que ça marchait bien.
Ah, après, le salopio, tu l'installes sur celui de ta femme avant.
Et non, parce que elle a un iMac, elle a un MacBook Pro, donc si je brique le MacBook Pro, c'est pas grave.
Ah, d'accord.
Son, okay. iMac. Et donc ça s'est bien passé. Le mien, ça l'a briqué pendant 10 minutes. C'est-à-dire qu'il y a un reboot au milieu du processus. Et il a frisé, donc là, ça a été un peu chaud.
Oula, t'as eu des sueurs froides.
C'était un peu chaud, j'ai eu des sueurs froides. Grosso modo, ça s'est pas mal passé. Et pour moi, en gros, je vois pas la différence. Voilà. Et donc, ça marche bien. Donc ça, c'est le côté positif. J'ai des copains qui ont des soucis, tu mentionnais, avec Photoshop. J'ai des copains qui ont eu des soucis avec des drivers d'imprimantes, puisque maintenant, les drivers d'imprimantes ne sont pas dans la distribution, tu veux les chercher sur Internet. Mmh. Donc, quelques petits soucis comme ça. Mais grosso modo, moi, le gros de mes applications fonctionne. Le seul commentaire, c'est que je ne vois pas la différence. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'outils, de fonctionnalités qui ont été changées, modifiées, etc. Mais c'est des trucs que j'utilise pas, donc en gros rien à foutre. Ouais. Et pour le gros de mon utilisation, je vois pas la différence. Donc moi la question qu'on m'a posée, c'est est-ce que ça valait le coup de dépenser $49 pour un pack de 5, puisque on a plein de Mac à la maison, donc je fais tous les Mac de la maison. Pour moi, de toute façon, ça n'a pas vraiment de sens de rester en arrière sur une version d'OS. Je me suis posé la question sur Vista, mais c'était une telle daube que j'ai décidé de les PC à Vista. Mais donc là, j'ai fait l'install. Objectivement, c'est plus petit, c'est a priori un tout petit peu plus rapide. Moi, j'aime bien la notion de on vire des trucs de l'OS pour que ce soit moins gros.
Oui, ça c'est sûr que...
Philosophiquement, c'est bien. Moi, j'avais une grosse attente, c'était... le MacBook Pro Unibody, le dernier, a une carte graphique double. Donc en gros, il y a deux cartes graphiques dans la machine. Une qui te permet d'avoir 8 heures d'autonomie de batterie, ce qui est géant, et une qui a une super définition mais qui bouffe beaucoup plus de ressources. Et aujourd'hui, pour passer de l'une à l'autre, tu es obligé de te déloguer et de te reloguer, ce qui est un peu gênant. Et ce que j'espérais, c'est qu'en fait, Apple supporterait la carte graphique, puisque théoriquement tu peux utiliser les deux cartes graphiques en parallèle, ce qui te donne donc une capacité monstrueuse. Et ben ils l'ont pas implémenté, je suis extrêmement déçu.
Ah bon? Ah oui, ouais, c'est effectivement, je savais pas que c'était qu'il fallait faire ce genre de choses. C'est un petit peu pénible. Mais ouais. Bah écoute, moi en fait depuis que je suis ici à Phoenix, j'utilise mon petit Dell qui a 4 ans et qui met 4 heures à booter, donc je l'utilise pas pour tout. Et Marc m'a très gentiment prêté son MacBook Pro. Et donc, je l'ai utilisé pendant quelques jours avant la mise à jour. Et puis, il y a deux jours, il l'a fait sur ce MacBook Pro qu'il m'a prêté. Et il l'a mis à jour. Bon, je m'en sers que pour Safari, enfin Firefox, pour aller sur le net et ce genre de choses. Mais effectivement, je n'ai vu mais aucune différence, quoi. Aucune. Donc, tout le monde disait, oui, ils le voyaient, regardez, ils le font à 29$ alors que Windows 7 va coûter très très cher, c'est la même chose et ils le vendent moins cher chez Apple. Franchement, s'ils le vendaient à plus que ce prix-là, je comprends pas ce qu'ils ont fait en fait. Si ça se trouve, bon, il faut être honnête, il y a plein de choses qui se passent sous le capot qu'on ne voit pas jusqu'à ce que les applications des développeurs soient mises à jour. Et donc ça changera un petit peu au final, mais pour l'utilisateur classique là, enfin pour l'utilisateur final aujourd'hui, je sais même pas, le système prend moins de place sur le disque dur, donc ça c'est bien, il libère je crois 9 Go, ce qui est énorme, mais hormis ça, je comprends pas l'intérêt pour l'utilisateur final. Il n'y a pas énormément d'intérêt de mettre à jour tout de suite. Si vous voulez attendre un peu, ça changera pas votre vie, quoi.
Bah, tu as un support du 64 bits natif, donc ça veut dire que tu vas pouvoir...
Il était déjà là, le support du 64 bits, c'était juste qu'il avait aussi le support du 32 bits, et aujourd'hui, le support du 32 bits n'est plus là. C'est pour ça qu'ils ont enlevé plein de choses.
Et c'est natif au sens... théoriquement, les programmes 64 bits sont censés aller un peu plus vite maintenant, parce qu'ils ont changé quelques technologies. Enfin, je sais pas exactement ce qu'ils ont changé, mais je disais un truc comme quoi tu dois avoir un petit bénéfice au niveau de la performance. Ils ont censé, a priori, ils ont intégré une nouvelle technologie qui utilise le processeur et le GPU en espèce de load balancing, la carte graphique, Graphic Processor Unit. De manière à ce que tu puisses en fait utiliser ton GPU un petit peu comme ton CPU. Donc distribution de tâches, ça te permet d'être plus rapide, etc. Mais objectivement, j'ai pas vu la différence.
Ouais. Bon, sans doute sur des applications un petit peu plus rapides, enfin un petit peu plus gourmandes comme les calculs graphiques ou ce genre de choses. Mais
hier soir j'ai essayé puisque bon c'est ça le test, hein, et j'ai pas vu une différence.
D'accord. Moi, bon.
J'ai vu aucune différence au niveau FPS.
Ouais.
Donc s'il y avait une différence au niveau CPU, tu le vois pas. Mais bon, c'est le FPS qui va être en gros le juge. Ouais. Et j'ai pas vu de différence.
D'accord. Bon. En tout cas, bon, c'est une application, c'est une mise à jour. À vrai dire, je suis un petit peu malhonnête, je dis il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'installer, mais moi si j'étais sur Mac, je l'installerais de toute façon parce que j'aime bien être dans la dernière version. Peut-être si vous avez un doute sur les compatibilités, attendez 2-3 semaines, mais elle est tellement bon marché que ça vaut même pas la peine de ne pas l'installer, quoi.
Tu peux, éventuellement, tu peux attendre le premier patch de la 10.6, donc la 10.6.1, qui à mon avis sortira sous quelques semaines. En fait, là, le gros débat aujourd'hui, c'est attendez les gars, on voit pas la différence. En gros, c'est un patch et on nous fait payer un patch. Bon, ok, c'est pas cher, 29$ ou 49$ pour 5 installs. Mais bon, c'est un patch, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est là où, quand tu regardes la liste des fonctionnalités détaillées qui est sur le CD-ROM, tu te dis ouais ok c'est sympa, mais qu'est-ce que, enfin je m'en fous, quoi, je vois pas la différence.
Bon, on vous laissera juger de la pertinence de cet argument et je suis sûr qu'on aura un petit peu le même à l'envers à la sortie de Windows 7. Ça va être marrant d'en reparler à ce moment. On quitte l'univers merveilleux d'Apple pour parler
de... Non, j'en ai encore un truc de fanboy. Parce qu'en fait, comme j'étais donc à l'Apple Store, qu'est-ce que tu fais à l'Apple Store ? Bah, tu regardes s'il n'y a pas des trucs nouveaux. Et je n'avais en fait jamais découvert le nouveau headphone, donc les écouteurs de l'iPhone qui est la version à l'intérieur de l'oreille.
Ouais,
donc,
les écouteurs d'oreille interne, ouais. Intra-auriculaire, voilà, ça s'appelle.
Intra-auriculaire, c'est tellement poétique par rapport à in-ear. Et ces nouveaux écouteurs ont une petite boîte de transport, ce qui veut dire que tu ne vas pas bousiller tes écouteurs en les portant dans ta veste ou dans ta poche. Donc ça coûte une fortune, ça coûte $79, mais ils sont de super qualité. Donc en fait, j'ai l'OS, je vois pas la différence, mais les écouteurs, ils sont géniaux. Voilà.
Écoute, moi j'ai ces écouteurs depuis plusieurs mois. Ces écouteurs-là, je les avais achetés quand j'étais en Suisse il y a quelques mois. Et je dois dire que ce sont des écouteurs d'une qualité absolument immonde. Non seulement le son ne me convient pas du tout. Bon, c'est sûr que par rapport aux écouteurs d'origine, ça va, mais par rapport aux écouteurs classiques, enfin normaux qu'on achète, qui ne sont pas Apple, ça m'a vachement déçu, justement parce que j'espérais qu'ils seraient enfin d'une bonne qualité. Et en plus, au bout de, allez, 3 mois, ils étaient complètement bousillés.
Ah ouais.
C'est-à-dire que ouais, les petits embouts, tu sais, sous les écouteurs en eux-mêmes, le petit machin en caoutchouc, il s'est détruit au bout de quelques mois. Alors, je me sers pas du petit machin de transport, mais quand même quoi.
Donc okay, pour le moment j'ai bien
mais la qualité te paraît bonne, ça me surprend quand même, mais
bah écoute, étant donné que j'écoute pas énormément de musique mais surtout du podcast, de l'audiobook, etc. Franchement,
oui, pour un, ça convient, c'est sûr.
Confortable. Et deux, bah, je sais pas, j'ai bien aimé.
Bon, donc, bah, voilà. on verra. La prochaine fois qu'on se croise, je te ferai écouter les nouveaux écouteurs que j'ai achetés justement à l'Apple Store il y a 3 jours, qui sont des Vimoda et qui sont excellents. Donc, on fera la comparaison en live.
Okay.
Et pour finir la petite partie Apple, malgré bon le MacBook que j'utilise là, il est sympa, mais bon. Je reste quand même à fantasmer sur un MacBook et je crois qu'à un moment, dans les mois qui vont venir, je vais m'en acheter un. Ça va plus être possible, quoi. Il va y avoir un truc qui va se passer.
L'unibody 17 pouces, je sais pas si tu... Bah en fait, non.
Je voudrais un truc un peu plus portable. Il me faudrait l'unibody 13 pouces, en fait.
Donc, en tout cas, le design unibody, j'étais pas super convaincu. J'ai laissé passer la première génération. Quand ils ont sorti la deuxième, là, ils avaient tellement amélioré les perfs.
Mais tu sais ce qui me plaît le plus, bon là ça devient une sorte de conversation entre nous, on va pas continuer trop longtemps, mais ce qui me plaît le plus c'est le trackpad avec le multi-touch. C'est d'une utilité quand on est sur un portable mais invraisemblable. Je passe de mon petit Dell au Mac et ne serait-ce que le fait de scroller avec 2 doigts, c'est tellement simple mais tellement intelligent que on peut plus s'en passer. Donc bon, ok. Sony et les e-book readers. Sony a annoncé la sortie de 3 nouveaux e-books, de 3 nouveaux e-books, dont 2, bon, c'est des formats un petit peu différents, qui sont un qui est en couleur d'ailleurs, si je ne m'abuse. Je sais pas si tu as vu la news.
Pas.
Non, t'as pas vu. Disons que il y a 2 choses importantes. Sur l'un d'entre eux, il y aura une petite partie tactile qui vous permet de tourner les pages en touchant l'écran. L'écran lui-même n'est pas entièrement tactile, mais le simple fait de tourner les pages en touchant, c'est vachement sympa. C'est quelque chose d'original et d'intelligent, je pense. Et puis surtout, l'autre grosse nouvelle, c'est la sortie d'une version connecté, c'est-à-dire que comme le Kindle dont on vous parle depuis des mois dans cette émission, vous pourrez télécharger des livres directement depuis n'importe où, puisque vous serez connecté au réseau cellulaire, et vous aurez accès à une bibliothèque quasiment infinie avec une connexion, je crois que ce qu'ils sont chez... enfin, pour le moment, ça ne sera qu'aux États-Unis, mais ils espèrent l'amener en Europe d'ici, d'ici quelques mois. Et c'est très clairement un concurrent du Kindle. C'est plutôt une bonne nouvelle de voir arriver de la concurrence sur ce marché. Maintenant, est-ce que cet e-book spécifiquement sera mieux ou moins bien que le Kindle, on ne sait pas. Mais l'arrivée de la concurrence est plutôt une bonne chose. Je me souviens plus, tu as un Kindle, toi, non ?
Non, j'ai pas un Kindle.
Ah, d'accord,
parce
ok.
En fait, bon. on a discuté ça parce que j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Je lis énormément en ligne, mais je lis très peu de livres, etc. Et en fait, ma solution à moi, c'est les audiobooks.
Ouais. Tout à fait.
Et donc, j'ai pas fait le passage au Kindle, mais je pense que vu le nombre de livres que mon fils lit, on lui a acheté une série de 8 bouquins en France et il a lu les 8 bouquins genre 8 jours. ça pourrait être économique pour nous de lui prendre un Kindle. Donc, je pense qu'on va y passer. On prendra un Kindle 2. Effectivement, c'est bien que Sony offre une concurrence. Faudra voir un petit peu s'ils arrivent à véritablement concurrencer Amazon, parce qu'il faut dire que bon,
ouais, c'est pas des petits joueurs. Bah, enfin, Sony, c'est pas des petits joueurs non plus. Hein.
Non, et puis, c'est pas des petits joueurs.
Disons que la petite préoccupation que ça pose, c'est la fameuse guerre des formats qu'on a connue dans la musique. Est-ce qu'elle va arriver dans le livre aussi ? Est-ce que le Kindle va avoir des livres que si jamais tu n'as plus de Kindle, tu ne peux pas passer sur ton Sony, ou pareil inversement, c'est le vrai souci à ce niveau-là, c'est ces histoires de format et de DRM, encore une fois, de droit d'utilisation, parce que c'est vrai que on peut se dire bon, bah moi j'ai mon Kindle, je m'en fous, je suis sur Kindle, mais le jour où tu n'as plus ton Kindle, qu'est-ce que tu fais de tous les livres que tu as achetés ? Tu peux plus les utiliser nulle part, tu peux les utiliser qu'à certains endroits, enfin bref. C'est cette histoire qui va devoir être résolue à un moment ou un autre, mais c'est là encore, comme avant que les MP3 ne gagnent dans la musique, il y avait toutes sortes de formats indépendants. Et Sony fait des efforts, puisqu'ils ont ils ont adopté le format EPUB, dont on parlait la dernière fois, qui est un petit peu plus ouvert que les autres. Donc peut-être qu'il y a une solution qui se profilera à l'horizon.
Je pense que le jour où on aura un peu comme... comme dans le passé, on va avoir différents formats et tout le monde va se mettre à hurler et un jour on aura un format commun.
Oui, bien sûr.
D'habitude.
Nokia a annoncé quelque chose d'un petit peu surprenant, à vrai dire deux choses surprenantes qui, selon moi, montrent qu'ils sont en train de développer des stratégies pour s'implanter sur des marchés sur lesquels ils ne sont pas encore. La première chose, c'était leur bouclette, qui est un netbook. Qu'ils appellent bouclette, hein, pour donner encore un nouveau nom. C'est tout simplement un petit netbook. Sa particularité, c'est qu'il a un slot, enfin un petit emplacement pour mettre une carte SIM directement dans le netbook. C'est plutôt intéressant, ça veut dire qu'on peut prendre directement la carte SIM de n'importe quel opérateur et la coller dedans. On n'a pas besoin d'avoir la clé USB qui dépasse du netbook ou ce genre de petits trucs qu'on a généralement quand on achète un plan, enfin un abonnement chez un opérateur, un abonnement de données chez un opérateur spécifiquement pour son ordinateur. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, ce que ça me signale, c'est que Nokia, qui a, je sais plus, 40% du marché des téléphones portables dans le monde, se dit il est temps d'essayer de regarder ailleurs. Quel est le marché le plus connexe et le plus en développement qui existe aujourd'hui? Ben, c'est sans doute celui des netbooks. Là où c'est un petit peu surprenant, c'est que les constructeurs ne font pas énormément de marge sur les netbooks, et surtout il y a énormément de concurrence déjà. C'est un marché qui est très très nébuleux, parce qu'on n'arrive plus du tout à s'y retrouver. Mais bon, enfin, peut-être qu'ils vont le vendre plus cher, ou peut-être qu'ils ont un plan secret, ou peut-être que simplement ce marché leur suffit. Bon, moi j'ai trouvé cette annonce plutôt intéressante. Il sortira d'ici quelques semaines, il y aura une conférence pour annoncer les détails.
Si tu acceptes la notion que le netbook, en fait, c'est un gros iPhone, et que in fine tu vas avoir le même scénario, qui est je vais avoir un netbook pour rien, enfin genre in fine ce sera un prix
out of bed computer.
150 euros, 200 euros, et donc ce sera avec un plan.
Un abonnement chez un opérateur.
Ouais. Un abonnement chez un opérateur, et donc tu auras le même mécanisme de vente que les téléphones. Ça peut avoir du sens pour Nokia qui a déjà toutes les relations possibles et imaginables dans tous les pays du monde avec les avec des opérateurs, de se dire on va vous vendre un gros téléphone, quoi.
C'est sûr que c'est étrange, mais en fait Nokia est certainement mieux placé pour faire ce genre de deal et proposer le meilleur la meilleure expérience à l'utilisateur que des gens comme je sais pas moi, Samsung, Asus ou ces gens-là qui ne font que des ordinateurs depuis des années. Donc c'est vrai que Nokia là a une double expérience smartphone et opérateur dans le monde qui peut être très bénéfique. Tout à fait. L'autre chose qu'ils ont annoncé, c'est Nokia Money. Nokia Money, c'est un service qu'ils vont proposer d'abord dans les pays en voie de développement de paiement par téléphone portable. Et ça, c'est une sorte d'arlésienne dont on parlait beaucoup au début des années 2000. On disait, tout le monde a un téléphone portable, pourquoi se trimballer avec de l'argent ? On pourrait imaginer un système qui permet de facturer directement l'utilisateur par son téléphone sur sa facture d'opérateur de téléphonie mobile. Et ça simplifierait la vie de beaucoup de gens. Genre, il y a des gens qui imaginaient, on passe son téléphone sur la caisse enregistreuse et ça règle la facture. Ou alors on met un petit code et pareil, ça règle la facture, etc. L'idée semble avoir été un petit peu abandonnée, mais Nokia a regardé le marché des téléphones mobiles et s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose comme 4 milliards de téléphones mobiles, de contrats de téléphones mobiles dans le monde, alors qu'il n'y avait que 1,5 milliard de comptes en banque dans le monde. Et c'est vrai que les pays en voie de développement, ça peut être parfois très compliqué de donner à ces gens-là accès à un compte en banque, parce qu'il faut, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est des choses comme le fait d'avoir une succursale pour la banque pas trop loin de l'endroit où ils sont. Et ben c'est pas toujours évident, ça demande une infrastructure énorme, alors que ils ont déjà énormément de téléphones portables. Donc Nokia s'intéresse à ce marché, veut développer ce système de paiement par téléphone portable dans ces marchés en voie de développement, enfin dans ces pays émergents d'abord. Et peut-être ensuite, pourquoi pas, l'amener ailleurs dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Pour moi, c'est un trait de génie parce que ce marché est monumental. C'est vraiment quelque chose de monumental. Il y a déjà des gens qui s'intéressaient à cette histoire de banking, de banque par téléphone portable. J'avais vu un reportage sur une petite société très intelligente qui essayait de développer ça justement pour les pays émergents. Mais Nokia, encore une fois, est un géant du marché. Et s'ils réussissent à développer ça, c'est non seulement un service énorme dont énormément de gens auraient besoin et pourraient bénéficier pour se rendre la vie plus facile, mais en plus, c'est un pactole monumental, évidemment.
Oui, il faut voir que Nokia, de plus en plus, va se focaliser sur le software, sur le logiciel, sur les services qui sont autour du marché du mobile, plutôt qu'uniquement être un vendeur de téléphone. Donc c'est complètement cohérent pour eux de s'intéresser à ce marché qui est relativement naissant, c'est-à-dire que même si on a une énorme pénétration du mobile, comme tu le disais, il y a très très peu de solutions de paiement global aujourd'hui. On commence à en avoir aux États-Unis, c'est des choses qui sont typiquement en développement depuis 4-5 ans et qui ont une pénétration relativement limitée encore aujourd'hui.
Ouais, c'est surprenant que ça soit pas développé plus vite. Hein. Par contre, la question qui se pose évidemment, c'est si c'est Nokia qui fait ce type de truc, quid des iPhone, BlackBerry, LG, Samsung, etc. Est-ce que pour pouvoir payer, il faut avoir un Nokia ensuite ?
Oui, mais si tu développes un service, c'est ton avantage en fait d'être présent sur toutes les plateformes. Donc c'est du logiciel, il n'y a rien, sauf s'ils ont des systèmes d'authentification spécifiques qui sont liés au hard. Je vois pas pourquoi, s'ils développent en gros une banque du mobile, je vois pas pourquoi ce serait pas disponible sur toutes les plateformes.
C'est sûr que ça serait leur intérêt de le diffuser autant que possible.
Parce que bon, Nokia aujourd'hui c'est un énorme acteur du marché européen, mais aux États-Unis c'est que dalle, quoi. Ils sont référencés mais de façon très limitée par les opérateurs, ce qui fait que si tu veux acheter un Nokia, ça va te coûter un prix absolument monstrueux, quoi.
C'est vrai qu'ils sont pas très présents aux États-Unis. Ça doit être l'un des seuls pays où ils sont pas, mais
C'est dommage, c'est un gros marché.
C'est sûr. Autre chose dont on veut parler avant de passer à notre dernière news, l'histoire de la BlizzCon dont tu voulais nous parler, Jeff. Une idée qui est sortie un petit peu de nulle part, d'un petit blog qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est JY's Blog ou un truc comme ça, et qui a fait le tour du web assez vite. C'est quelques mots qui parlent des CAPTCHA. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce système. Vous connaissez certainement ce système, mais vous ne connaissez peut-être pas le nom. C'est pour éviter le spam. Souvent, quand on doit laisser un commentaire ou créer un compte quelque part, il y a une petite image qui représente des lettres qui sont difficiles à lire et on vous demande de dire ce qu'il y a écrit dessus. Donc, c'est un système de sécurité qui est très répandu aujourd'hui, qui permet de déjouer les robots de spam. Parce que ces robots de spam ne peuvent pas lire ces lettres-là, elles sont trop diffuses et trop sales pour qu'ils puissent les identifier correctement. Et bien, il y a un type qui s'est dit, en trois mots, qui a fait cet article, qui a dit, mais j'ai une idée assez sympa. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des pubs dans les CAPTCHA? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux mots genre « bonjour accordéon », eh ben, pourquoi on ne mettrait pas « buvez Coca-Cola » par exemple, ou « Mercedes » ou « Pepsi » Et c'est vrai que c'est une idée absolument géniale, parce que c'est une pub sans être une pub, parce que c'est un truc que vous devez faire de toute façon pour des questions de sécurité, donc ça ne va pas vous emmerder, ça ne va pas vous prendre votre temps ou prendre votre attention, vous détournez de ce que vous êtes en train de faire. Et en plus, ça a un impact énorme parce que l'utilisateur doit lire la chose, la comprendre et la retaper. Donc, enfin, c'est une pub, c'est l'une des pubs les plus efficaces qu'on puisse imaginer, ou en tout cas de la diffusion de noms de marque et d'identité de marque. Et donc, tout le monde s'est mis à en parler, effectivement, et je pense que ça va être implémenté assez vite par les sociétés qui font déjà des CAPTCHA, mais c'était marrant de voir que cette idée est sortie en deux secondes comme ça d'un blog, et je pense que ce type n'en verra jamais un centime, mais ça risque de financer des fortunes sur le web, quoi.
C'est vrai, c'est ça la magie de l'entrepreneuriat, c'est pas des idées super complexes qui un jour peuvent créer des boîtes qui sont monstrueuses. Bon, là, comme tu le disais, le problème c'est comment tu en tires parti, mais le concept, c'est tu regardes le truc, tu dis oh putain, mais c'est tellement simple, pourquoi j'y ai pas pensé? Parce que c'est tellement évident, et il y a des milliards et des milliards de CAPTCHA qui sont générés chaque jour. Donc je sais pas, en plus t'as énormément de solutions sur le marché, donc je sais pas s'il est possible de déterminer combien de CAPTCHA sont effectivement utilisés, ne serait-ce que par jour, mais à mon sens, puisque c'est à chaque fois que tu vas signer pour un service et des fois même pour laisser un commentaire, donc c'est vraiment répétitif. C'est des milliards par jour, donc ça veut dire que c'est un marché monstrueux, quoi.
Un type qui vient te voir avec une idée comme ça en te disant je veux monter une boîte pour faire ça, en l'occurrence le marché des CAPTCHA est déjà énorme, mais s'il réussit à garder son idée secrète en se disant je vais monter ça, toi tu le finances ou tu dis ouais on va voir?
Ah bah c'est que la grosse question.
Avec une simple idée, je veux dire, comme ça.
Avec une simple idée, c'est comment tu vas avoir la distribution? Parce que c'est bon, l'idée super intéressante. La question, c'est comment tu rentres dans un marché qui a déjà des acteurs existants sur un concept qui est assez simple. Je veux dire, les mecs qui font du CAPTCHA, ils te font ça en deux temps trois mouvements, et après, il suffit qu'ils aient une relation avec des annonceurs, donc les gens qui les Coca-Cola, les Pepsi, etc., qui vont commencer à acheter du keyword. La question, c'est comment tu crées ces relations si t'as un nouvel entrant, et c'est vachement compliqué. Ouais, parce que c'est typiquement un truc où tu vas avoir beaucoup de compétition. Donc la question c'est ok, je vois l'aspect technologie, je vois l'aspect produit. La grosse question c'est quelle est la différenciation, quelle est la capacité à développer ta distribution, et qu'est-ce qui fait que une fois que tu as sorti le produit sur le marché, tu vas pas avoir l'ensemble du marché qui te copie.
Donc ça veut dire que ce pauvre JY qui a eu cette idée géniale, JY pour ceux qui parlent pas anglais, il aurait pas pu forcément simplement monter sa boîte et devenir riche en trois mois, quoi. Il aurait quand même fallu qu'il ait quelque chose en plus que sa simple idée.
Ça simple idée. Bon, typiquement, s'il était aux US, c'était quoi? Il était aux US en Europe?
Je crois que c'est un Américain. Hein. Je dis okay. JY, mais je crois que c'est un Américain.
Bah, il aurait pu essayer de voir s'il était possible de déposer ne serait-ce qu'une patente autour de l'idée, histoire de prendre un brevet, histoire de voir si un jour ça devient un succès monstrueux, il peut dire non, c'était mon idée, maintenant vous me payez des royalties.
Ah, ça me fait presque mal au cœur que cette idée aussi simple et aussi géniale ait été donnée sur un blog comme ça et qu'il ne va sans doute jamais en profiter, quoi.
Eh bah ouais.
Enfin, ça se trouve, il a déposé un brevet, hein, on sait pas.
Ah bah,
d'ailleurs, ça se trouve, le brevet n'est pas encore déposé et Jeff, dépêche-toi d'aller le déposer parce que ça se trouve.
Non, parce que maintenant l'idée est dans le public et à partir du moment où l'idée est dans le public, c'est impossible de déposer un brevet autour.
Ah, donc c'est trop tard, Damned.
C'est trop tard.
Bon, bah tant pis pour toi, JY. Désolé. Dernière chose dont on voulait parler, c'était l'aspect énorme du phénomène Blizzard, Warcraft et BlizzCon, puisque, comme vous l'avez compris, nous étions tous les deux à la BlizzCon. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui ne savent pas ce que sont Blizzard, Warcraft et la BlizzCon. Blizzard, c'est une société qui édite le jeu World of Warcraft, entre autres. Ils éditent aussi les jeux StarCraft et Diablo. Et ils font tous les ans une convention qui s'appelle la BlizzCon, qui réunit des fans du monde entier autour de leurs jeux et de leurs produits, et qui réunit la communauté. Donc il y a des gens du monde entier qui voyagent en Californie, à côté de Los Angeles, à Anaheim, pour se retrouver et passer quelques jours ensemble et partager leur amour du jeu ensemble. Et donc, toi, Jeff, tu étais régulièrement, puisque toi, je ne sais pas si on parle de la raison pour laquelle tu y étais, mais...
Oui, en fait, il y a deux choses. Un, je joue à WoW depuis des années, et ça, c'est assez amusant, parce que quand j'étais à la BlizzCon avec toi, donc, j'ai tweeté sur les panels, etc., et j'ai plein de gens qui me commençaient à me dire « Mais attends, tu joues à World of Warcraft, et comment tu fais ?» Et etc. Oui, je joue à WoW depuis longtemps. Et puis aussi, je suis un investisseur dans le domaine du jeu. J'ai fait 7-8 investissements dans le domaine du jeu, dont un qui est la plus grosse communauté MMO aujourd'hui sur le web, dont on taira le nom, même si toi tu sais exactement qui c'est.
Non, puisque, bon, on peut le dire, hein, si tu veux, moi, ça.
Non, non, parce qu'on va, publier un de ces jours, enfin, en gros, la boîte va faire son coming out.
Et donc, d'accord, ok.
On en discutera à ce moment-là. Et donc, j'étais là pour, avec les gus de ma boîte, donc, pour voir un petit peu ce qui se passait, pour rencontrer des gens de Blizzard et tout et tout. Et en fait, la réflexion que j'ai mené en tant que spectateur, c'était l'énormité en fait de l'événement, puisqu'il y avait quelque chose comme 26 000 personnes sur la convention. Donc 26 000 personnes, quand le premier matin on doit faire rentrer tous ces gens-là dans le hall de la convention, ça fait une queue de 1,5 km si on la déplie, et c'est incroyable. Je veux dire, c'est une des plus grosses queues que j'ai vu personnellement. C'est aussi une des plus grosses queues que j'ai jamais coupées, parce que en fait on a déjeuné tous les deux, et puis après toi t'avais un presse-passe, donc t'as pu rentrer, ouais. Et moi je me suis retrouvé au bout de la queue et je me suis dit attends, je vais pas attendre 1h30 pour rentrer, donc je me suis débrouillé pour en gros couper 23 000 personnes et rentrer.
Oh là là, le salaud,
rentrer en 12 minutes. Mais en tout cas, parce que la réflexion que j'ai menée, c'est un, donc la passion, l'énormité de l'événement, le fait que Blizzard en tant que société soit capable de gérer en parallèle ces trois franchises que tu as mentionnées, donc World of Warcraft qui aujourd'hui a 11 millions et demi de joueurs, Diablo qui est une franchise qui est quand même relativement vieille, où on va attendre encore 2 ans je pense avant d'avoir Diablo 3 qui sort, donc la nouvelle version, mais où il y a une énorme attente autour du jeu et qui fera des millions de copies vendues, et StarCraft 2, donc qui est la prochaine version de StarCraft qui sortira je pense en l'année prochaine, puisque c'est ce qu'ils ont plus ou moins annoncé, et qui va se vendre également de façon extrêmement avec beaucoup de succès. Et en parallèle de tout ça, ils sont aussi capables de développer une nouvelle IP, enfin un nouveau jeu, un nouveau produit, avec a priori leurs meilleures équipes sur le projet, et ils font tout ça en parallèle. et c'est assez incroyable. Ils ont une attitude qui me rappelle Apple, en fait, où ils décident dans leur coin de ce qui est bien pour les joueurs. Ils vont développer ces trucs-là sur plusieurs années, puisque je pense que la nouvelle IP quand ils vont la sortir, ils ont travaillé pendant 5 ans dessus. Éventuellement, si ça ne marche pas, ils les pètent avant même de les sortir.
Ouais, c'est arrivé plusieurs fois.
Ils
ont développé des jeux pendant plusieurs années, ils n'étaient pas satisfaits du résultat, ils les ont même pas sortis, ils les ont jetés.
Une capacité assez unique. Mais en même temps, et tu disais ça en fait, je ne sais plus si c'était sur Azot.fr ou sur The Instance, ils ont aussi cette capacité à partager quand même pas mal de choses avec la communauté. Et BlizzCon, en fait, c'est un événement unique qui nous permet à nous de voir un petit peu ce qui va se passer dans le jeu, mais aussi un événement pour eux, récupérer le feedback de la communauté, des joueurs, etc., où tu peux aller les voir, leur serrer la paluche et discuter avec eux.
C'est
quelque chose d'assez impressionnant pour moi.
Il y a beaucoup de gens qui risquent de se dire, oui, bon, 26 000 personnes, il y a des conventions comme le CES ou le E3 ou ce genre de choses qui réunissent beaucoup plus de gens. Il faut bien se rendre compte que c'est une seule boîte qui réunit tout ça autour de un jeu qui existe vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire World of Warcraft. StarCraft 2 et Diablo 3, bon, les épisodes précédents existent bien, mais ils sont sortis il y a des années et des années. Je veux dire, StarCraft 1 est sorti il y a quoi, presque 10 ans maintenant. Et Diablo 2 est sorti il y a bien 6, 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un phénomène d'une ampleur incroyable pour un seul jeu, et la communauté est vraiment présente. Une des choses qu'ils ont annoncées qui intéressera peut-être nos auditeurs, en dehors de la nouvelle extension du jeu World of Warcraft, c'est ce nouveau marché de cartes pour StarCraft. StarCraft est un jeu de stratégie, et pour StarCraft 1, la communauté était très présente et développait des cartes customisées, des cartes personnalisées qu'on pouvait utiliser dans le jeu. Et ben, ils ont pris ça en compte pour la deuxième version de StarCraft et ils ont développé dans leur réseau qui s'appelle Battle.net un système qui permet de créer, en fait ils ont créé une sorte de magasin de cartes, c'est-à-dire comme dans l'App Store pour Apple ou dans l'iTunes Store on peut acheter des applications ou de la musique, et ben là on pourra acheter des cartes customisées. Alors quand je dis acheter, c'est libre, parce que il y en aura des gratuites et des payantes. Et ça veut dire que les développeurs en herbe ou même des développeurs sérieux pourront développer des cartes customisées pour StarCraft 2, et non seulement des cartes customisées, mais l'expérience du jeu peut être totalement transformée, parce que l'outil d'édition est tellement puissant qu'on peut non seulement transformer complètement le jeu en un autre jeu de stratégie. Par exemple, StarCraft 2 est basé dans un univers de science-fiction, mais on peut imaginer en développer un autre jeu qui soit dans un univers médiéval ou heroic fantasy ou ce genre de choses. D'ailleurs, Warcraft 3, je deviens un petit peu technique, mais l'une des utilisations les plus communes aujourd'hui du jeu de stratégie Warcraft 3 est une modification faite par des fans. Le fameux Dota, Defense of the Ancients, qui était une transformation totale du jeu et qui est l'une des utilisations les plus communes du jeu aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il est très 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 connu. Et c'est un moyen, en fait, qu'a Blizzard de reconnaître le travail de la communauté, un petit peu comme l'a fait Valve avant, en intégrant et en achetant des modes comme Counter-Strike. Ça parlera aux joueurs, mais des ajouts au jeu, des transformations du jeu qui étaient tellement utilisées et tellement qui avaient tellement de succès qu'ils les ont soit rachetés, soit commercialisés, soit intégrés à leur offre. Et ben là, non seulement Blizzard permet d'intégrer ça à leur offre, mais ils offrent un moyen de vendre ce type de modification, de mode à n'importe qui et d'en faire de l'argent. Alors évidemment, Blizzard touche une partie de l'argent. On n'a pas les détails encore, hein, mais on se doute bien qu'ils vont pas faire ça complètement gratuitement. Les utilisateurs et les développeurs pourront faire ça gratuitement. S'ils choisissent de faire payer, Blizzard prend une partie de l'argent, j'imagine. J'ai vraiment l'impression, que dans cette histoire, dans ce système, tout le monde y gagne, quoi. Je vois pas de côté négatif. Je suis sûr qu'il y en a, mais...
Moi, je ne dirais qu'une chose, c'est pour moi, c'est en fait un test de l'arrivée des microtransactions dans les jeux de Blizzard.
C'est très possible.
C'est-à-dire que là, en fait, c'est on va tirer parti du travail des de la communauté et donner la possibilité aux développeurs qui passent beaucoup de temps sur ces maps, parce que c'est quand même un énorme boulot que de développer ces jeux, en fait, c'est des jeux, hein.
Oui, non, mais c'est vrai. Peut-être qu'on n'est pas très clair pour les gens, parce qu'on n'est pas forcément en train de parler à un public d'averti, mais c'est véritablement des nouveaux jeux que ces gens créent.
C'est un éditeur de jeux, en quelque sorte.
Ouais.
Et donc, c'est la possibilité pour eux de reconnaître ce travail et puis de mettre en place une économie supplémentaires autour de leur jeu. Comme tu le disais, c'est quelque chose que l'on a aujourd'hui sur Warcraft 3. C'est juste une anecdote, mais à Stanford, pendant l'été, tu vas avoir plein de cours, c'est en gros des camps qui durent une semaine, où les gamins peuvent aller faire un peu de tout, de la physique, etc., plein de choses. Et en fait, il y avait un camp d'édition de map Warcraft 3 que mon fils a suivi.
C'est vrai.
Donc, tu vois, un peu comme il est geek, et il a été faire donc son cours pendant une semaine. Il a fait de l'édition de map
de la construction de cartes Warcraft.
Et donc le dernier jour, les parents étaient invités à venir essayer et jouer les cartes que les enfants avaient développées, et ils ont chacun récupéré leur diplôme. Et ils avaient un Gus qui était un instructeur, qui était un mec qui était un ex interne de chez Blizzard.
C'est marrant.
Donc le mec était un expert, et mon fils il était fou là, pendant une semaine il a fait ça. Mais en gros, ça montre la popularité de ce jeu qui comme tu disais, il a 7-8 ans quoi. 6 ans celui-là.
Là où c'est encore plus intéressant, je pense, au niveau de l'industrie, c'est qu'effectivement, avec World of Warcraft, qui est un système avec abonnement, Blizzard récupère de l'argent tous les mois, et avec Starcraft, ils vendent la boîte et puis après c'est terminé. Donc moi, je me demandais un petit peu comment ils allaient pouvoir répliquer un modèle de où l'argent arriverait régulièrement, et le système qu'ils ont imaginé avec ces ventes de cartes customisées me semble la meilleure solution, parce qu'effectivement ça permet de ramener des sous sans parce que tu dis microtransaction, ce qu'on imagine quand on dit microtransaction, c'est tout de suite, je te vends dans le jeu des vêtements supplémentaires ou une arme plus puissante, tout ce genre de choses. Et ça, souvent, les joueurs l'imaginent avec un petit peu de réticence. Parce qu'ils se disent, mais le jeu est complet, est-ce que c'est vraiment juste ou justifié de vendre quelque chose de plus puissant à quelqu'un qui va payer, donc faire payer plus pour donner un avantage en jeu? Là, c'est pas du tout ça, c'est simplement un jeu en plus ou une carte en plus. Enfin, bref, on va pas passer la nuit dessus.
Mais tu vois, t'as déjà les... je sais pas comment ça se dit en français. En français, les trading cards.
Où les cartes à jouer, ouais.
Les cartes à jouer, où tu vas pouvoir donc jouer avec des cartes en parallèle du jeu, mais tu vas avoir un système de rédemption où tu vas récupérer un code, et le code, il va te donner des items exclusifs, uniques, dans WoW.
Ouais, d'accord, tout à fait, ouais.
Et ça existe aujourd'hui. Et pour moi, la réflexion, c'est quoi? C'est que, in fine, maintenant que Blizzard Entertainment fait partie d'Activision, c'est une boîte publique, ils ont une pression sur l'augmentation du revenu, des profits, etc., etc., comme une boîte publique, hein, je veux dire, c'est
normal.
C'est normal. Et sachant qu'il y a aujourd'hui une énorme vague de fonds dans le marché du jeu, plutôt du côté casual, où tu vas avoir donc la microtransaction, les items, etc., où tu as des boîtes comme Zynga ou comme Tencent qui font maintenant des centaines de millions de dollars de revenus sur ce type de modèle économique, je ne vois pas comment Blizzard pourrait l'ignorer. Alors, est-ce qu'ils vont se dire, on peut pas toucher à WoW, parce que WoW c'est une cash cow, enfin, ça génère du cash, c'est monstrueux quand tu y penses, je veux dire, c'est quoi, c'est 19 dollars par...
Un peu moins, un truc comme ça. Un peu moins.
En tout cas, c'est ce qu'on paye nous. et donc, rajouter en plus de la microtransaction, ce serait peut-être un peu beaucoup. Comme tu le disais sur StarCraft et sur Diablo, pourquoi pas, puisqu'il n'y a pas ce concept-là. Mais je parie que le prochain jeu, la nouvelle IP, aura ce type de...
Ah, c'est très possible, oui. Oui, oui, c'est sûr, c'est possible. Blizzard est quand même très protecteur de ses joueurs, donc je ne sais pas si, si les joueurs ont une réaction très négative, je ne sais pas si... Enfin, bon, on verra. Comme tu le disais, ils sont un petit peu les Apple du monde du jeu vidéo, et ils font ce qu'ils estiment être juste et bon pour leur jeu, et si c'est cohérent pour leur jeu, peut-être que c'est ce qu'ils implémenteront à l'avenir.
Ouais. D'un autre côté, tu vois, si tu veux acheter une Spectral Tiger Mount aujourd'hui sur eBay, ça va te coûter des centaines, si ce n'est quelques milliers de dollars, quoi.
Oui, mais là, c'est une perversion du système, parce que c'est une carte à jouer. C'est pas que tu payes à Blizzard des c'est milliers vrai. De dollars. C'est injuste de dire la chose comme ça, quoi. Enfin, vous pouvez profiter de ces commentaires de ma part, parce que pour être totalement full disclosure et dire toutes les informations à nos auditeurs, je commence à travailler chez Blizzard d'ici une ou deux semaines. Donc c'est la dernière fois que je pourrai commenter publiquement les activités de Blizzard. Donc profitez bien de ces commentaires, parce que ça sera les derniers pour moi. Donc,
on ne peut plus prononcer le mot Blizzard, World of Warcraft.
Ça va être compliqué, parce que si moi je dis ce que j'ai dit aujourd'hui, je suis encore complètement indépendant. Tu vois, je suis un podcasteur indépendant. Je pourrais heureusement continuer le rendez-vous tech, mais t'imagines si je dis exactement ce que j'ai dit là en travaillant pour Blizzard, c'est pas crédible, quoi. Tu le dis, oui, mais tu travailles pour Blizzard, machin, donc bon. Voilà, donc je pourrais plus vraiment commenter ça à partir de
Bravo Patrick, quand même. Bravo.
merci. Chapeau. Bon, bah écoutez, ça va conclure notre petit épisode californien et arizonien, et on va vous laisser sans site fantastique et sans conseil logiciel encore une fois, parce que on est un petit peu dans une config différente de d'habitude. Je vais vous répéter par contre que le podcast est disponible sur iTunes et que vous pouvez aller y laisser un commentaire. Si vous voulez nous filer un coup de main, ça sera extrêmement apprécié. Vous pouvez trouver le site sur lrdv.fr. LRDV, c'est le rendez-vous tech. Donc le rendez-vous, ça fait LRDV. Ou alors sur frenchspin.com, qui est mon site central. Vous pouvez nous envoyer un email sur tech@frenchspin.com. Et bah voilà, c'est tout. Vous pouvez me retrouver sur Twitter à twitter.com/notepatrick, et vous pouvez retrouver Jeff à
twitter.com/Jeff, J-E-F-F. Et en fait, comme on n'a rien à vous recommander, je vais vous recommander quelque chose. Je suis en train d'écouter l'audiobook du bouquin de Chris Anderson, qui est l'éditeur de Wired et qui avait publié ce livre de Long Tail. Et donc, il a fait un deuxième bouquin sur qui s'appelle Free, The Future of a Radical Price. Donc, c'est l'économie des choses gratuites, et c'est un bouquin qui est absolument passionnant. Et vous pouvez aller sur iTunes. Alors, je sais pas comment ça marche, parce que aux États-Unis, Patrick, pendant que tu es là, tu peux aller sur iTunes, tu fais une recherche sur Chris Anderson Free, et tu peux downloader cet audiobook pour rien, c'est-à-dire que l'audiobook est gratuit, et on peut également l'accéder par internet et prendre le manuscrit et le lire gratuitement. Et
je crois que ça
génial.
Je crois que écoute, je vais aller y jeter un coup d'œil, mais je crois que ça dépend en fait. Évidemment, il y a des droits d'édition différents dans différents endroits, et il y a l'un des problèmes, c'est que les comptes iTunes dépendent des cartes de crédit qu'on a utilisé. Donc, si ta carte de crédit est française, il est possible que tu n'aies pas accès aux choses qui sont les choses gratuites aux États-Unis. Donc, allez y jeter un coup d'œil. Moi, j'essaierai aussi. Et puis, si on peut le télécharger, ça va être un excellent bouquin pour faire passer le temps dans l'avion. Encore que j'ai encore le Gunslinger, The Dark Tower de Stephen King, que je suis en train de lire en ce moment.
C'est t'entends Chris Anderson pendant 8 heures là. Je suis ça fait 3 heures, j'ai fait 3h30 là ce week-end, mais ça reprend en fait énormément de, tu vois, toutes ces histoires de d'économie virtuelle, machin, qu'est-ce que tu mets en place pour que quel prix minimum, enfin c'est pour les gens qui se posent des problématiques de pricing, d'attaque de marché, etc. C'est un excellent bouquin, parce qu'il reprend en fait 10 ans d'économie gratuite, et d'essayer de disséquer en fait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et même moi qui baigne dedans, je trouve ça super intéressant.
Bon, bah écoute, merci de la recommandation. Et bah dis-moi, pour un épisode qu'on pensait être plus court, on est quand même dans les temps, hein, à peu près. On est un peu plus d'une heure.
Parfait. Très bavard.
Merci à tous, et puis on vous donne rendez-vous comme d'habitude dans 2 semaines. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.